The executives assigned to this show decided to test it in Jersey. As a result, they think you mouth breathers are too stupid to understand my masterpiece. So listen up, dum-dums, and let me set the stage.
But the whole reason we're doing this thing is because if the girls reported their assaults, they wouldn't get any justice from Darlington. We beat up a lot of people based on this theory.
I'm sure there's a very funny story behind this. And I don't mean funny like ha, 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 funny.
Oui, je sais, vous les avez fait à votre image, vous les aimez bien, tout ça, mais excusez-moi de vous dire qu'ils sont quand même furieusement cons.
Give mommy a little kiss.
Allora.
The problem is not that there is evil in the world, the problem is that there is good. Because otherwise, who would care?
My daughter lives with her mother, no matter if she wants me to pay for every damn thing she can right-click online. When she talks to me at all, she's riding me about white male privilege. The myth of white male privilege.
Oh, man! This was supposed to be my big moment.
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, une nouvelle édition de cette émission qui vous parle série télévisée. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
C'est déjà le 13e épisode de la saison 5. Comme quoi, ça bosse. On est reparti pour un tour avec, comme chaque semaine, une petite revue avec toi de deux séries que tu as pu visionner pour nous. Deux séries assez nouvelles et dont tu vas nous donner ton avis.
Exactement. Alors, on commence par la première qui est à découvrir sur Netflix et qui s'appelle Godless. Alors, c'est une mini-série de 7 épisodes, mais 7 épisodes assez longs quand même. Hein. C'est ceux qui sont comme moi habitués au format 40 minutes, je t'avouerai que je trouve ça quand même un petit peu long. Mais bon, bref.
On avait vu une critique à ce propos-là. Il avait dit, c'est quoi, 6 ou 7 petits films, en gros. Hein.
Oui,
c'est
oui,
une heure vingt.
Oui, c'est ça. C'est, malgré tout, il faut s'installer pour y rester un petit peu plus longtemps que prévu. Ceci dit, ça vaut le coup.
Bah oui, quand on s'accroche et quand on arrive à regarder l'épisode complet sans s'endormir, ça vaut le coup.
Ouais. Ah, oui. Alors, pour expliquer de quoi ça parle, hein, pour commencer, nous sommes dans le Far West. Nous sommes dans un univers dans lequel on a des bandes de grands brigands qui vont de ville en ville pour braquer les habitants ou braquer le train parfois, ce genre de choses-là. On a aussi des gens qui doivent vivre dans des conditions pas faciles. On imagine donc le Far West dans toute sa splendeur. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va suivre plusieurs personnages. Les bouts de l'histoire se remettent dans l'ordre petit à petit, hein, dans le premier épisode, parce qu'au début, les informations nous sont pas forcément données dans l'ordre, mais c'est assez bien amené, la manière dont on découvre ce qu'il s'est passé, en tout cas ce qui formera l'intrigue principale pour la série. Et puis, il y a plusieurs mystères qui se mettent en place aussi sur l'identité de certains personnages. Est-ce qu'ils sont vraiment ce qu'ils disaient être ou pas? Sur ce qui a pu se passer avant qu'on commence à regarder cette histoire, vu que, par exemple, on a une ville entièrement occupée quasiment que par des femmes, ce qui, quand même, quand on a l'habitude de regarder des westerns, est assez peu commun. On a des personnes, des histoires de vengeance dont il va falloir essayer de démêler ce qui s'est passé exactement. On a un petit peu tout ça. Représentants de la loi un peu solitaires qui essaient tant bien que mal de faire leur boulot dans cette espèce de territoire sans loi. Je dois dire que c'est assez happant comme histoire. C'est
ah, moi, j'aime bien.
Interpellant. On a vraiment envie de suivre. Il faut avouer que la beauté des images y est pour une grande part. La qualité de l'interprétation, la qualité de la reconstitution également. Même si à ce niveau-là, je t'avouerais que je me suis fait la réflexion que certains décors sont quand même un petit peu propres par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Certains décors, je trouve, ne paraissent pas avoir suffisamment vécu comme on pourrait l'imaginer. Mais bon, c'est peut-être la seule petite critique que je ferais à ce niveau-là. Oui, c'est notamment le cas dans la maison de la femme qui vit seule avec son fils et sa belle-mère. Là, c'est une famille très très pauvre qui vit dans des conditions très difficiles. Et quand tu regardes leur intérieur, il est pas du tout abîmé. Enfin, il paraît assez clean quand même. Et à ce niveau-là, je m'étais dit, tiens, c'est un peu bizarre. Mais bon, à part ça, au minimum, même si il y a toujours moyen de rendre le truc un peu plus sale pour que ce soit un peu plus réaliste, peut-être.
Pas question qu'il fasse aussi sale que chez toi tout le temps, hein.
Ah oui.
Voilà. Peut-être que dans le Far West de cette époque, on savait nettoyer.
Ah
madame.
Mais voilà. À l'époque, ils n'avaient pas plein de séries à regarder. C'est pour ça.
Bon, bah oui.
Bon, bref, mais c'est vraiment une bête petite remarque que je m'étais faite en passant. Mais à part ça, ça se regarde vraiment très bien, même si, comme je l'ai dit, ça prend un peu de temps. C'est une ambiance dans laquelle on est content de se plonger et. Ben, c'est presque dommage que ça ne soit qu'une mini-série, finalement, parce que c'est le genre de série dans laquelle tu vas puiser pour l'ambiance, justement, et donc ben, ça pourrait durer comme ça longtemps, peu importe le mystère principal, quelque part.
Mmh. Ben, en tout cas, pour ceux qui aiment le Far West comme moi, les cow-boys et cette ambiance-là, ben, c'est nickel, c'est vraiment parfait. Je trouve que le premier épisode est vraiment bien amené, parce que on a quand même le récit qui se plante là, le décor est planté après le premier épisode. Comme tu le dis, certains mystères s'installent aussi, hein, clairement. Mais je trouve que le déroulé du récit est assez plaisant à suivre.
Oui, oui, vraiment, je confirme. Pour le moment, j'en ai vu que 3 épisodes, hein, donc je ne peux pas encore dire si ça tient ses promesses jusqu'au bout, mais en tout cas, c'est plutôt une belle découverte jusqu'ici.
Voilà, moi j'en ai vu 2-3 quarts, puisque je me suis endormi sur le troisième un petit peu, me surveiller à la fin pour voir des choses très tristes, mais bon, voilà.
Ok, voilà, donc il se passe des choses tristes.
Mais oui, on s'attache et puis on ne devrait pas.
Ah, voilà. Bon. Ça, c'était donc pour la première série, c'est Godless et c'est sur Netflix. La deuxième série dont je vais parler aujourd'hui, c'est à nouveau un Marvel.
Ah, là.
À croire qu'on va avoir un Marvel par semaine, c'est tellement on en voit défiler ces derniers temps. Bon, donc c'est le dernier arrivé, c'est Marvel's Runaways. Donc, encore une fois, hein, c'est le cas à chaque fois, mais je ne connais pas le comics, s'il en existe un pour ces personnages-là en particulier. Je dois t'avouer que je ne connais
que oui,
pas
peut-être.
Du tout Ben écoute, oui, je suppose, mais je ne sais pas dans quel univers non plus ça se place. Est-ce que c'est plutôt du côté de l'univers X-Men ou d'un d'autre je ne sais pas. Donc à ce niveau-là, je serais incapable de te dire comment ça se situe dans l'univers Marvel. Et d'ailleurs, les trois épisodes que j'ai vus jusqu'ici ne me permettent pas du tout d'en avoir une idée, même si, ben oui, de fait, il est question de un petit peu de super pouvoir, et donc on se retrouve bien dans l'univers des super héros, on l'imagine. Mais ici, la particularité, c'est qu'on va suivre principalement une bande d'adolescents. Ils sont cinq adolescents, me semble-t-il, au début de la série, même si très vite on découvre qu'ils étaient six il n'y a pas encore si longtemps et qu'ils se sont perdus de vue justement parce qu'il est arrivé quelque chose à la sixième d'entre eux, mais on ne sait pas encore bien quoi. Ça reste encore assez mystérieux. D'ailleurs, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a pas mal de mystères qui se mettent en place dans ces premiers épisodes, ce qui fait que la série est plutôt prenante. On a plutôt envie de continuer à suivre, ne serait-ce que pour savoir ce qu'il en est exactement. Jusqu'ici, je dois t'avouer que ça reste encore très très nébuleux. Donc on va en parallèle de ces adolescents, on va suivre aussi leurs parents qui finalement se connaissaient tous au départ, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont devenus tous amis. Leurs enfants sont devenus tous amis parce que les parents se connaissaient, et ils font partie d'une sorte de secte ou de cercle secret. On ne sait pas trop exactement, mais en tout cas ils cachent pas mal de choses à leurs enfants. Du coup, ben, les enfants vont eux aussi devoir cacher des choses à leurs parents pour essayer de découvrir ce qu'on leur cache. Et on imagine comme ça que va se mettre en place une sorte de jeu de chat et de la souris entre les parents et les enfants. Il faut savoir qu'à l'origine de cette série, on retrouve Josh Schwartz et Stephanie Savage, qui sont déjà assez connus dans le monde des séries, et notamment dans le monde des teen séries, teen drama, puisqu'on les avait connus précédemment, à l'origine de Newport Beach, par exemple, D.O.C., ou bien de Gossip Girl. Et là encore, cette année-ci, avec Dynasty, qu'ils ont renouvelé sur un mode un petit peu plus teen aussi, puisque c'est sur la chaîne CW. Donc voilà, et du coup on retrouve, c'est vrai je crois, ce savoir-faire là. On voit que la facilité avec laquelle on va rentrer dans cet univers, on va découvrir ces adolescents, ça coule de source, quoi. C'est quelque chose qui vient tout seul, même si évidemment on va avoir tendance à découvrir chacune des personnalités plutôt dans les clichés au départ, mais bon, on espère pouvoir en sortir assez rapidement. Finalement, les clichés, c'est pas très grave à partir du moment où il y a moyen de vite s'en éloigner par la suite. C'est une bonne entrée en matière. On retrouve aussi un certain nombre d'acteurs connus par les sériephiles, que ce soit parmi les parents, James Masters, qui est de Buffy, évidemment, et parmi les enfants aussi, on peut retrouver notamment un acteur de Faking It, ce genre de choses-là. Donc voilà, il y a pas mal de têtes connues, ça joue bien, c'est bien, c'est la narration, comme je l'ai dit, est assez fluide. On est pris par l'histoire dès le premier épisode et on s'ennuie pas, quoi. On a juste envie d'en voir plus pour savoir. Alors je dis pas que au bout de une fois qu'on saura, est-ce que l'intérêt restera intact? Ben, s'ils jouent bien leur jeu, ils arriveront toujours à nous mettre d'autres mystères en place. Mais en tout cas, s'ils restent sur ce mode-là, c'est plutôt une série qui va se dévorer, une sorte de guilty pleasure, j'ai envie de dire, parce que vraiment, ça se consomme sans même le remarquer, quoi. Donc voilà, c'est plutôt bien joué pour cette série Marvel-là, qui change aussi pas mal, il faut le dire, notamment des séries Marvel qu'on peut retrouver sur Netflix, qui sont quand même beaucoup plus sombres, même si les sujets sont tout aussi difficile, hein, finalement, puisque bah, il va être aussi question de choix difficiles, de trahison, de qu'est-ce qu'on fait avec des pouvoirs qui nous rendent différents des autres, ou ce genre de choses-là. Mais en même temps, bah, comme c'est une série adolescente, c'est aussi sur un mode un petit peu plus léger, et ça fait du bien aussi, quoi. Donc voilà. Plutôt une bonne surprise aussi pour cette série-là.
Voilà, alors je peux moins t'aider parce que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de voir cette série.
Oui.
Ok, ben voilà pour ton avis du jour. On va poursuivre en musique avant d'aborder le sujet qui sera extrapolé, on va dire, dans les prochaines minutes.
Oui, on va commencer à se mettre dans l'ambiance immédiatement avec Unbreak My Heart de Toni Braxton, entendu dans Fresh Off the Boat.
Yeah.
La suite de Série Folie. Ça repartit pour un tour avec un sujet du jour qui sera Aurore.
Bah écoute, les vacances approchent, je me suis dit qu'on allait faire dans le léger aujourd'hui. On va parler de la souffrance.
La souffrance de qui?
Souffrance,
des parents ou des enfants?
La souffrance de tout le monde.
D'accord. Bon, la souffrance en général.
Bah, dans les séries, évidemment. Hein.
C'est ça. Mais
on parle de rien d'autre.
J'essaie de voir un petit peu comment la souffrance peut être représentée dans les séries.
Ben justement.
Ça va être tout ça.
Ben oui, c'est ça. On va essayer de faire le point là-dessus. En commençant justement par essayer de voir de quelle souffrance est-ce qu'on parle exactement. C'est assez varié finalement, même si. Si on regarde, tu parlais d'une distinction morale ou physique. Finalement. Pour ce qui est de la souffrance physique en tant que telle, l'éventail va être peut-être moins large qu'on pourrait penser, puisque mais soit on va avoir vraiment une souffrance physique visible et spectaculaire, hein, puisque mais malgré tout on est dans un média audiovisuel, donc il va falloir que ça se voit. Hein. Et donc ça va être des blessures en tout genre, souvent liées simplement à l'action qui est en train de se passer. Ceci dit, c'est pas le principal, la majorité des souffrances qu'on va voir. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est impliqué par la maladie, ce genre de choses là mais à nouveau, si c'est pas très spectaculaire, c'est pas vraiment là-dessus qu'on va se concentrer principalement. S'il n'y a pas soit une souffrance terrible qui fait que les gens sont à l'agonie et en train de hurler, l'enjeu va vite se déplacer sur autre chose. Donc la souffrance physique, finalement, elle n'est pas représentée autant qu'on pourrait s'y attendre sous toute sa variété, parce que justement transmettre la souffrance physique qui ne soit pas visible, qui ne soit pas spectaculaire, par exemple, est-ce que vraiment on peut penser à beaucoup de personnages de séries télévisées qui ont mal au dos? C'est bête ce que je te demande, mais c'est un mal qui est censé être quand même très très répandu à notre époque, et pourtant c'est pas quelque chose qu'on va retrouver très très souvent, le mal de dos parmi les personnages de série.
Ou alors vraiment de manière momentanée pour aider au récit du jour.
Oui,
quoi.
C'est ça. J'avais quelque chose à faire et je suis bloquée à cause de ça. Uh-huh. C'est plus un prétexte qu'autre chose. Parfois, malgré tout, on va voir traiter certains mots qui sont plus lancinants, plus quotidiens, mais ce seront évidemment dans des séries justement qui se préoccupent davantage du quotidien. Je pense par exemple pour le moment à la série Queen Sugar, dans lequel un des personnages croit être atteint de fibromyalgie et finalement ce sera pas de ça qu'il s'agit, mais je ne veux évidemment pas spoiler, mais donc là on a un petit peu parlé de ça qui est un mal de fait qui n'est pas visible, qu'il est très difficile de transmettre par l'image. Donc, même quand il s'agit de maladies, peut-être qu'on va choisir plutôt des maladies un peu plus spectaculaires. Moi, une maladie, par exemple, qui m'avait énormément impressionnée, mais justement parce que c'était vraiment très, très visible, la souffrance se voyait vraiment sur le visage du personnage, c'était dans Deadwood, lorsque...
Je me souviens bien, ouais.
Un des personnages a des... des pierres aux reins, hein, tout simplement. Et c'est une souffrance absolument atroce qu'il est en train de vivre. Et là, on la vit clairement avec lui. Quoi.
Ouais, c'est à peine, il ne sort pas par ses yeux tellement il souffre. Quoi.
Oui, c'est... exactement. Donc ça, je crois que tous ceux qui ont vu cet épisode-là s'en souviennent tellement. Tellement
même c'était... ces épisodes, parce qu'ils traînent le truc sur un certain temps.
Voilà, ça c'est ce que j'avais à dire pour le moment sur les douleurs physiques. Alors par contre, au niveau psychologique, là on va avoir une variété peut-être beaucoup plus large, même si encore une fois, mais la variété finalement des causes de cette douleur psychologique sera large et justement parce qu'on pourra la rattacher soit aux motivations des personnages, soit aux raisons pour lesquelles ils se comportent d'une manière ou d'une autre, ce qui va les amener à réagir ou à ne pas réagir, etc., etc. Mais enfin, c'est par là, c'est à nouveau par l'action qu'on va pouvoir montrer cette souffrance plus que vraiment par la souffrance en elle-même, parce que la souffrance, c'est
invisible.
C'est subjectif, surtout. Même quelqu'un qui est devant toi, même s'il souffre énormément, tu peux pas savoir à quel point il est le seul à pouvoir le vivre, quoi. Donc
savoir l'évaluer, oui.
Voilà. Donc au niveau des douleurs psychologiques qu'on va retrouver le plus fréquemment, évidemment, il va y avoir la question du deuil. La dépression est aussi très très souvent traitée dans les séries. Donc ça, c'est au niveau des souffrances peut-être les plus longues, les plus lancinantes, etc. Mais on va aussi avoir parfois le traumatisme, qu'il soit de guerre ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être très, très variable. Les souffrances liées à des conflits ou à une rivalité, à une rupture ou à la désagrégation d'un couple, l'ennui tout simplement dans un couple qui est en train de s'installer. La souffrance due aussi aux discriminations, au racisme, au sexisme, etc., qui sont aussi des souffrances qui sont pas mal explorées pour le moment. La souffrance de la vieillesse, parfois, peut être abordée. Évidemment, le suicide, qui est une des... à la fois une des issues possibles,
voilà, une des conséquences de la souffrance,
mais aussi une des causes de la souffrance des proches. Ça va dans les deux sens également. Écoute, dans 13 Reasons Why, par exemple, on suit autant la souffrance de Anna qui va la mener jusqu'à son acte terminal, mais aussi juste toute la culpabilité de ceux qui restent après. Alors justement, toutes les questions de culpabilité après avoir commis des actes parfois impardonnables peuvent aussi être mis dans cette catégorie-là, ou bien alors aussi tout ce qui est un peu plus le blues, la nostalgie, tu vois, quelque chose d'un peu plus... un peu plus lié au quotidien et à des personnages peut-être un peu plus rêveurs aussi. Donc ça, c'est au niveau de l'éventail qui peut nous être proposé dans les séries. Alors la place que prend cette souffrance va être assez, assez large aussi. Le premier qu'on retrouve plus ou moins fréquemment, même si finalement, si on y réfléchit, c'est peut-être pas l'usage principal qu'on peut faire de la souffrance vraiment dans un récit. Ça va être simplement un prétexte pour amener à la suite de l'histoire. La seule chose, c'est que malheureusement, la souffrance, bien souvent, c'est le contraire même de l'action, quoi. C'est quelque chose qui nous arrête d'un coup, c'est quelque chose qui nous empêche d'agir. Et donc, à part, comme quand tu le disais, ben parfois une douleur qui peut empêcher l'action d'arriver, et donc qui se présente comme un obstacle dans les aventures du héros, dans ce cas-là, ça peut rentrer dans cette catégorie-là. Ça rentre aussi dans cette catégorie-là quand on a simplement le coup classique de la vengeance au début de la série ou bien un peu plus tard d'ailleurs, on va avoir le personnage principal qui voit un de ses proches mourir ou être violé ou que sais-je, et du coup ça, au lieu de l'arrêter net d'un coup et le pousser à se recroqueviller en boule dans son lit pour pleurer pendant des épisodes et des épisodes, ce qui avouons-le n'est pas très télégénique, il va se venger, ce qui est beaucoup plus télégénique d'un coup, et donc dans ce cas-là ça va pouvoir servir de prétexte, mais comme je l'ai dit, mais c'est pas la majorité parce que justement, bien souvent, la souffrance, elle va nous arrêter plus qu'autre chose. Une série qui est intéressante sur cette tension-là, c'est la série Jessica Jones, dans laquelle on voit à quel point à la fois l'héroïne a été vraiment elle a été tellement bouffée par sa souffrance que elle est plus qu'une épave, elle est presque plus capable de rien faire, mais malgré tout, elle finit par trouver les forces, les dernières forces qu'elle ne croyait peut-être pas avoir
oui.
pour finir par lutter contre la personne qui est à l'origine de tous ces maux. Donc dans ce cas-là, on voit bien à quel point la souffrance dans son rapport avec l'action est un petit peu antinomique et en même temps pas totalement, quoi. Elle se trouve un petit peu entre les deux. Donc ça, c'est une des possibilités. Autre possibilité, la souffrance va aussi souvent pouvoir être utilisée pour caractériser un personnage. Et dans ce cas-là, c'est peut-être... ça dépend évidemment. Parfois, c'est super bien fait et ça n'est pas que un gadget, mais il faut admettre que parfois c'est purement cosmétique. On va avoir tel personnage qui boite, ou bien tel autre personnage qui est alcoolique. Très souvent, on va avoir des flics qui sont dépressif, alcoolique et solitaire. Enfin, c'est une caractérisation assez récurrente du flic, par exemple. Mais parfois, ça va plus loin et ça peut totalement s'intégrer autant à l'histoire, aux propos, etc. Je pense, par exemple, à Dr. House, pour lequel sa souffrance et sa blessure est vraiment au cœur même de toute son action et de toute la série, finalement. Et dans ce cas-là, évidemment, ça prend tout de suite une autre dimension. Dans certains cas, ça peut être aussi une souffrance qui va caractériser une dynamique entre deux personnages qui sont dans une conflictualité ou qui ne s'entendent pas du tout, et donc tout le ressentiment qui peut exister entre ces deux personnages va être un moteur pour la série. C'est le cas par exemple dans Feud, ou bien je pensais aussi à Fringe, dans lequel tout le départ est quand même beaucoup basé sur la relation brisée entre un père et son fils qu'on espère voir évoluer vers une sorte de réconciliation, quoi. Autre possibilité, cette fois-ci c'est peut-être un peu particulier, mais il y a certaines séries dans lesquelles c'est carrément l'univers, l'univers qui nous est proposé, qui est simplement un univers de souffrance. Il y a un univers qui souffre.
Voilà. C'est quoi ?
Presque comme si le propos de la série, c'était de nous dire, mais tout est souffrance, le monde n'est que souffrance. Je pense par exemple à The Walking Dead. Est-ce qu'il y a autre chose que de la souffrance ? Est-ce que par exemple.
Il y a parfois un peu de poésie et d'amour.
Ah bon ?
Très rarement, mais il n'y a pas que de la souffrance. Hein. Parfois, Michonne et notre ami
Rick,
oui, Rick peuvent s'aimer.
Oui, d'accord. C'est vrai que je n'avais pas vu ça comme vraiment
parfois,
un truc poétique.
Parfois, on a un gros plan sur une fleur.
Ah oui.
Avant de voir un mort-vivant s'écraser, mais...
Oui, malgré tout, il faut avouer que ce qui motive les personnages, à part limiter au maximum leur souffrance, tu ne peux pas vraiment dire que ce soit une sorte de représentation de la recherche du bonheur, quoi. Très clairement, la question du bonheur est totalement évacuée. De toute façon, le monde est horrible. Et tout le truc, c'est il faut essayer de survivre dans ce monde horrible qui est fait uniquement de souffrance.
Mais non.
Non, t'es pas d'accord.
Il court vers un meilleur, un monde meilleur, donc.
Ah ben c'est pas flagrant, hein.
Ah, il faut regarder, hein. C'est leur but, hein, dans la vie. Il faut tuer tout le monde pour être heureux, quoi.
Ah, c'est ça que j'avais pas compris. L'autre exemple aussi que j'avais en tête, c'est Game of Thrones. Je sais pas ce que t'en penses, mais là aussi.
Il y a pas que de la souffrance, moi. Bon, il y en a beaucoup, mais.
Quand même, quoi.
Ouais. Je sais pas quoi te dire.
Enfin, à nouveau, est-ce que il y a la moindre éclaircie, la moindre idée que le bonheur est possible
Mais ils vont combattre le Winter is coming.
Oui, d'accord.
Et ils vont gagner, et puis il va faire beau, et puis tout le monde sera gentil.
Ah oui. Tout à coup, les gens vont arrêter de se violer entre eux, tuer, s'entretuer, etc.
C'est pas sûr. Ils font la paix pour pouvoir après peut-être refaire la guerre, parce qu'ils n'avaient pas fini. Mais c'est une occupation comme une autre, peut-être que ça les amuse.
Oui, tout à fait. Mais tu avoueras que là, la souffrance est... fait partie intégrante de la vie, quoi. C'est juste le message, c'est ben, la souffrance, c'est la vie, point. On fait pas sans, donc on fait avec, et puis c'est tout, quoi.
C'est assez cruel comme monde.
Ça fait partie du décor, quelque part, la souffrance.
Oui, ça s'imprègne assez de souffrance, tu te l'accordes.
Bon, voilà. Évidemment, c'est une théorie. Hein. On peut ne pas être d'accord avec cette idée-là, mais c'est l'impression que moi j'en ai en tout cas. Alors évidemment, il y a la souffrance simplement comme élément de l'intrigue. Ici, on est dans des séries qui essaient davantage de se rapprocher du cycle habituel de la vraie vie où la vie c'est fait de haut et de bas, hein, c'est fait de deuil, c'est fait de rupture, c'est fait de disputes et de réconciliation. Enfin, il y a tout ça dans la vraie vie et dans les séries aussi. On va retrouver tout ça. On va retrouver ça par exemple dans Buffy où parfois ça va et parfois ça va pas, et puis parfois ça va vraiment vraiment pas, et il faut peut-être beaucoup plus longtemps qu'une saison pour s'en remettre, mais ça fait partie de la vie. Je pense aussi à Jane the Virgin, dans lequel, là aussi, la souffrance fait partie des aléas de la vie, avec ses ruptures, avec ses deuils, etc. Je pensais aussi à une série comme Brother and Sisters, par exemple, où les conflits sont permanents, et quand on ne s'entend pas avec un, on va s'entendre avec l'autre, et puis voilà, on fait avec. Ou bien dans Shameless aussi,
oui, où, c'est un bon exemple.
Là aussi, parfois ça va, et parfois...
ça dure jamais bien longtemps.
Mais à chaque fois, on voit bien que dans la famille, quand il y en a un qui va bien, il y en a toujours un qui va moins bien, quoi. C'est toujours...
C'est un peu le moteur de la série.
Ah oui, oui, très clairement.
S'il n'y a pas ça, c'est plus Shameless.
La série est faite de haut et de bas en permanence, quoi. C'est vraiment les montagnes russes dans
il
le cas de Shameless.
Il ne pourrait pas s'en sortir, se dire « Ah, maintenant on a de l'argent, on vit dans une maison propre, on ne se drogue plus, on ne boit plus, oulala, on fait des enfants qui sont élevés normalement ». Ça arrête la série s'ils font ça, tu vois.
Oui, évidemment. Mais en même temps, l'espèce de monde idéal que tu es en train de nous présenter fait un peu peur aussi. Mais bon, bref. Ça, c'est autre chose. Dernière place que peut prendre parfois aussi la souffrance dans les séries. Ben là, ce sera quand la souffrance, c'est le sujet principal de la série, et l'ensemble des saisons est consacré à traiter cette douleur-là. Alors ça peut être le deuil dans The Leftovers, qui va être traité sur plusieurs saisons, ça peut être la dépression dans BoJack Horseman, qui va aussi être déclinée sous toutes ses formes, être étalée, étendue, où on va vraiment explorer tout ce qui nous mène à la dépression. Ça peut être le traumatisme de l'inceste dans Flesh and Bones, par exemple, les rivalités dans Feud, la désagrégation du couple dans Togetherness, ce genre de choses-là. On pourrait évidemment en citer bien d'autres, mais il y a quand même pas mal de séries aussi, pour le moment au minimum, qui explore vraiment ces douleurs personnelles, psychologiques, de manière très très approfondie, quoi.
Voilà. Même la musique nous dit qu'il est temps d'arrêter.
On Alors. S'écoute de la musique ?
Ben oui, hein.
Alors, Big Girls Don't Cry, c'est The Four Seasons, et c'était dans Close.
Souffrance, le générique de Buffy. Bon, c'est un choix. La suite de ce sujet du jour. Aurore, on t'écoute.
Alors, on va terminer donc ce sujet en parlant du traitement. Comment est-ce que les séries vont traiter de la souffrance, et à travers deux dilemmes principaux, à mon avis, qui se posent quand tu es créateur de séries et que tu veux montrer la souffrance. On va commencer par le premier dilemme. La première question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on s'y prend pour montrer la souffrance, alors que, par définition, la souffrance, c'est quelque chose qui est subjectif, qui
la plupart
du temps ne se voit pas, ou en tout cas est très très difficilement partageable, puisque chacun le vit un petit peu à sa manière, sans compter en plus que, comme je l'avais dit, la souffrance est souvent le contraire de l'action, et donc ça fait encore moins de choses à montrer si on a affaire à des personnages qui pleurent pendant des saisons entières, tu avoueras que ça va pas être super super intéressant à suivre. Donc c'est un problème, et il va falloir réussir à surmonter ce problème-là d'une manière ou d'une autre, transmettre au spectateur la souffrance qui est en train de se passer dans l'histoire, et tout en l'ennuyant pas trop non plus. Le but, ça va pas être de rendre la série tellement lente et dépressive que tout le monde a envie de se pendre à la fin de chaque épisode. En tout cas, on espère que c'est pas le but. Alors, comment est-ce qu'on montre la souffrance ? Évidemment, on va commencer par la manière la plus basique, ça va être par le jeu d'acteur, évidemment. Les acteurs, malgré tout, ont une certaine palette de jeux. Alors, certains plus étendus que d'autres et plus nuancés que d'autres, il faut bien l'admettre. Certains vont juste nous faire une tête un petit peu triste pendant un certain temps, mais certains arrivent quand même, rien que par leur jeu d'acteur, à nous transmettre des émotions particulièrement fortes, et ça peut vraiment être assez fort à suivre, mais ça dépendra d'un acteur à l'autre. Donc ça, c'est la première chose, la plus basique, quelque part, c'est le minimum qu'on pourrait en attendre. Une autre manière, évidemment, ça va être à travers les dialogues. On va essayer de mettre en place entre les différents personnages des dialogues suffisamment profonds pour creuser cette souffrance, la faire s'exprimer d'une manière ou d'une autre, la pousser à sortir à travers les mots. Même si la souffrance n'est pas partageable, malgré tout, parfois, elle peut mener à des expressions et à une manière de la dire qui peuvent être intéressantes et qui peuvent toucher chacun d'entre nous. Ça nous ramène totalement à ce que nous vivons, et on peut se retrouver nous-mêmes avec les larmes plein les yeux parce que quelque part on vient de toucher là à une souffrance que nous-mêmes on ne connaît que trop, quoi. Donc parfois les dialogues peuvent être particulièrement bien faits à ce niveau-là aussi pour nous transmettre cette émotion-là. Alors, une autre manière, ça va être plus dans la manière dont un épisode, ou parfois une série entière, va être menée dans sa narration, où on va avoir des épisodes ou des saisons plus axées sur la nostalgie, avec des flashbacks, avec peut-être une mise en scène qui met plus en place le le côté onirique, toute la nostalgie qui peut se dégager de certains souvenirs. On va nous représenter des personnages qui sont en errance et qui vont comme ça d'un endroit à l'autre sans trop qu'on sache quel est le but. On les voit finalement perdus et on les voit se démener autant qu'ils peuvent dans cette souffrance qu'ils n'arrivent pas à exprimer à aucun moment, quoi. Et donc le seul moyen de l'exprimer, c'est à travers des actions qui ne mènent à rien, comment on appelle ça encore, des points de non-retour où finalement je vais quelque part et puis je fais marche arrière parce que c'était pas la bonne solution, et on passe son temps comme ça à aller d'un endroit à l'autre sans trop savoir où on va. Ça peut être par exemple le cas dans la série BoJack Horseman, où on va quand même beaucoup avoir ce genre de représentation là. Alors quelque chose qui est aussi très 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 utilisé, et il faut l'avouer assez pratique, parce que c'est une manière de représenter finalement la souffrance psychologique d'une manière suffisamment visible, ça va être l'usage de drogue, d'alcool, évidemment le suicide ou les tentatives de suicide, hein, tous ces outils entre guillemets qui vont être utilisés pour montrer, oh regardez, il est très triste, regardez, il est déprimé, donc il boit, ou ce genre de choses-là qui sont finalement un poncif dans les séries télévisées qu'on retrouve partout, hein. Prend ne serait-ce que The Wire, on va avoir énormément l'usage de l'alcool pour montrer la dépression auquel leur travail peut mener certains policiers à certains moments. Donc ça aussi, c'est assez fréquent. Et enfin, eh bien, on va montrer les dégâts que la souffrance va avoir sur la vie des personnages, sur leurs décisions aussi, la manière dont ça va totalement changer leur comportement. Je pensais par exemple dernièrement à la série Nola Darling. Je sais plus. Enfin, she's got a habit, hein, en anglais. La série de Netflix dont je parlais la semaine passée, où au premier épisode, elle vit une agression dans la rue, et quelque part ça va modifier son comportement vis-à-vis de ses proches, etc. Et donc on voit à travers ses réactions comment cette souffrance est réellement vécue, quoi. Donc ça va aussi être une manière finalement de traiter de la souffrance, de nous la transmettre d'une manière ou d'une autre, comme on le peut. Un exemple que je trouve qui finalement regroupe tout ce que j'ai cité ici, qui est assez récent, c'est la série You're the Worst, dans la saison qui est en train de se dérouler là, qui est en train de se terminer pour le moment, qui vient de se terminer d'ailleurs, reprend finalement tous ces éléments-là. On va voir autant dans les dialogues, dans le jeu des acteurs, dans l'errance, évidemment dans l'usage de l'alcool, et dans les réactions des personnages. On va avoir tout ça pour nous essayer de nous montrer finalement la souffrance que traversent les deux personnages principaux, d'ailleurs pas seulement les deux, les quatre personnages. Alors, deuxième et dernière question, puisqu'il faut que je me dépêche, et ce sera finalement, comment est-ce qu'on fait pour gérer le pathos, pour ne pas le prendre à la légère d'un côté et pas non plus plomber la série. C'est vraiment un vrai jeu d'équilibriste ici, parce que si tu montres trop, si tu pars trop dans le pathos, ça va être insupportable à regarder. Et en même temps, si tu dois traiter un deuil, une rupture, etc., de manière, si tu le fais un petit peu à la va-vite, les spectateurs vont pas du tout être contents parce que ils n'auront pas reçu ce qu'ils attendaient. Et donc c'est vraiment super difficile de gérer ça. C'est vraiment une question d'osage en fait, et principalement au niveau de la gestion du temps. On le dit souvent, la série c'est le média du temps, hein, et ici il va falloir réussir à s'arranger pour répartir suffisamment dans le temps pour qu'on n'ait pas l'impression que tout à coup on en reparle alors que les 5 derniers épisodes on n'en avait plus du tout parlé et tout à coup hop ça retombe comme ça de nulle part, on sait pas pourquoi, ou bien au contraire on en parle tellement depuis tellement longtemps qu'au final, ça n'a plus aucun sens, ça n'intéresse plus personne. Enfin, c'est super difficile à gérer. Et chacun fait comme il peut, en fait, hein, parce que certaines séries vont faire le choix plutôt de ne pas montrer certains moments. Je pense par exemple à Jane the Virgin, et d'ailleurs ça a provoqué certaines réactions de mécontentement chez certains fans qui disaient bah, « Enfin, elle est en train de vivre un deuil, on aurait aimé vivre ce deuil avec elle. » Mais en même temps, est-ce que vraiment ça aurait été intéressant de voir cette série totalement plombée ? Ils ont fait un choix qui était de passer une période peu facile. Il y en a d'autres qui vont faire un choix différent à travers l'action, où ça va être réparti sur l'ensemble d'une saison ou bien sur l'ensemble de la série. Enfin, tout est une question de dosage, et à ce niveau-là, il faut avouer que certaines s'en sortent beaucoup mieux que d'autres.
Voilà.
Voilà.
Bon, bah, on va clôturer ici si tu le veux bien.
Oui.
Voilà pour le sujet du jour. On va pouvoir retrouver cette émission podcastée dans les prochains jours, c'est promis, via le site internet www.seriefolie.be et les réseaux sociaux. On va se quitter en musique.
Oui, on va s'écouter Tears in Heaven d'Eric Clapton, entendu dans Vice Principals.
À la semaine prochaine, Aurore.
À la semaine prochaine. Just can't stay.